La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, la Collective.
Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, grâce à Radio Micheline, dont on rediffuse l'émission Mardi, c'est permis, vous pourrez assister en différé à la table ronde qui avait lieu le 24 avril dernier sur les yeux dans l'eau. Une table ronde qui parlait de solutions fondées sur la nature. Place donc à l'émission de Radio Micheline qu'on remercie chaleureusement.
Mardi, c'est permis ou lorsque Micheline propose à ses invités de prendre le micro ou alors tout simplement lorsqu'elle se balade ici et là avec le sien dans divers rendez-vous comme la 7e édition du festival Les Yeux dans l'eau. Un rendez-vous que vous retrouverez aussi chez nos amis de Radio Saint-Ferréol avec qui nous sommes partenaires sur cette 7e édition. Mardi, c'est permis avec les intervenants de la table ronde du 24 avril, solutions fondées sur la nature et état des lieux.
Radio Micheline, l'excitatrice de culture.
Les yeux dans l'eau, un festival international du film de rivière, une eau qui coule ainsi de projections, en rencontres, en balades, en conférences. Les rivières cette année sont vivantes et les territoires résilients. Comme le dit si bien le festival, la résilience n'est pas un mot abstrait face à ce défi climatique. En ce jour, ce vendredi 24 avril, nous nous retrouvons avec Radio Micheline et Radio Saint-Fé avec qui nous sommes partenaires pour parler justement de ce thème. Et qui de mieux pour nous le présenter ? Sabine Girard et Samuel Pinjon, bonjour.
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 Vous êtes alors élu en quelque sorte pour animer la table ronde, la conférence qui va suivre aujourd'hui. Et vous faites partie de l'INRAE, un institut de recherche publique œuvrant pour un développement cohérent et durable de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Exactement, donc ça veut dire que je suis chercheuse. Je fais même partie d'un laboratoire qui s'appelle le LESEM, comme Laboratoire d'écologie et de société de montagne, qui est basé à Grenoble. Et comme son nom le dit, qui comprend des sciences biophysiques comme l'écologie, et puis des sciences humaines et sociales. Moi, je suis géographe et donc je m'intéresse plutôt à la question de ce que font les hommes avec et dans l'environnement, la nature.
Samuel, tu es dans la même équipe, je crois d'ailleurs. J'ai noté aussi l'équipe Astre. C'est bien ça ?
Avec deux R.
Avec deux R.
Oui, effectivement, je suis dans la même équipe que Sabine et également du coup à l'Université de Lyon 3, au sein du laboratoire Environnement, Ville, Société, qui est plutôt un laboratoire de géographie. Et on est effectivement dans une équipe qui s'appelait anciennement ASRE, qui a changé le nom récemment, mais qui a plutôt effectivement comme sujet de travail les rapports sociaux à la nature et à l'environnement.
Et autour de cette table, évidemment aussi Camille.
Bonjour.
Bonjour Camille, pardon.
Pas de souci. J'ai une première question pour bien remettre au niveau de vos différents intitulés. Toi, Sabine, tu es agronome de formation. Ça veut dire quoi en fait ?
Ça veut dire que j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie.
Okay.
Ça veut dire que ma formation première, c'est plutôt de m'intéresser à ce qui se passe, disons, de l'échelle de la plante jusqu'à l'échelle, on va dire, des versants.
Okay.
Et du point de vue agronomique, c'est-à-dire le fonctionnement sol, eau, plante. Mais en réalité, ensuite, j'ai fait une thèse doctorat en géographie et plutôt du côté des sciences sociales. Okay. Et donc, je me suis commencé à m'intéresser aux relations entre les hommes et aux relations des hommes à la nature et sur des aspects, on va dire, un peu moins techniques et peut-être un peu plus politiques aussi.
J'ai cru comprendre, Sabine, que toi, tu faisais à la fois de la recherche et de la recherche-action. Mais du coup, est-ce qu'on peut peut-être poser les bases et expliquer la différence entre recherche et recherche-action ?
Pour faire simple, on pourrait dire que la recherche, ça va être la production de connaissances scientifiques. Et puis la recherche-action, c'est quand on essaie que ces productions, ces connaissances scientifiques, elles soient directement utilisables par des acteurs opérationnels sur le terrain. Alors ça peut se passer de plusieurs manières. Ça peut être par exemple parce qu'on construit la problématique, la question de recherche avec les acteurs. Ça peut être aussi parce qu'on réalise la recherche, l'acquisition de données ou leur interprétation avec ces acteurs. Ou ça peut être aussi parce qu'on produit une forme de connaissance qu'on rend ensuite directement utilisable par les acteurs. C'est ça qu'on va globalement appeler de la recherche-action.
Samuel, tu as peut-être dès le début plutôt travaillé sur la question de l'eau, contrairement à Sabine, dans ton parcours.
Oui, alors moi j'ai un parcours très coloré sciences sociales dès le départ, dès la licence. Et plus spécifiquement en sciences politiques. Et j'ai assez rapidement travaillé sur les questions de environnement climat pour commencer au début. Je travaillais plutôt sur les enjeux de négociation climatique, ce genre de choses. Et après, je suis plutôt parti sur la question de l'eau, effectivement, donc assez vite, dès le début du master. Et après, je me suis spécialisé, du coup, par une seconde formation vraiment pour travailler un peu plus sur ces enjeux de eau et société, quoi.
Et donc, tu t'intéresses aux propositions alternatives qui sont en train d'émerger. Toi aussi, Sabine. Du coup, peut-être expliquer comment vous collaborez ensemble dans cette équipe. Pourquoi vous êtes là tous les deux aujourd'hui? Alors, vous n'êtes pas les seuls participants de cette table ronde, puisque on a chacun des invités.
Cédric Cadet, que l'on va recevoir tout à l'heure aussi, fera partie de cette table ronde. Et d'ailleurs aussi Pascal Lossel, qu'on recevra avec Jordi.
Alors effectivement, on est tous les deux chercheurs, donc Samuel, en fait, il est en train de réaliser une thèse de doctorat, et moi j'encadre sa thèse de doctorat, donc on est juste à des niveaux différents dans l'évolution de carrière, mais en fait au quotidien, on travaille tous les deux sur les sujets, et dans cette table ronde, on vient amener le regard scientifique, en fait, quand même, un petit peu sur ces sujets. Donc l'idée, effectivement, comme Samuel, c'est son sujet, c'est qu'on puisse poser des questions pertinentes à nos intervenants qui, eux, vont venir plutôt raconter ce qu'ils font concrètement sur le terrain. Et nous, on peut donner un peu un recul sur du point de vue des sciences et du point de vue peut-être un petit peu plus théorique, ou en tout cas ce qui se passe aussi ailleurs, comment ce film nous interroge. Mmh. En réalité, ce film nous interroge. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'en discuter avec nos intervenants.
Alors ce film, parlons-en peut-être, du coup.
Oui, et du coup c'est un film qui s'appelle Cultiver la pluie, donc qui est sorti assez récemment, là il y a quelques mois, et qui du coup présente tout un tas d'initiatives, d'actions qui visent à ralentir, infiltrer, répartir l'eau sur les territoires. Et donc avec cette idée que en agissant sur certaines pratiques, notamment qui sont beaucoup liées à l'agriculture quand même là en l'occurrence, on peut réussir à ralentir l'eau, à l'infiltrer dans les sols et donc potentiellement à déjouer certains effets ou impacts du réchauffement climatique, notamment les enjeux de sécheresse ou d'inondation. C'est aussi une question dans le film. Et donc voilà, ça permet de voir un peu un panel de différentes propositions qui sont faites sur le terrain. Et effectivement, comme en plus on est dans un endroit ici, dans la Vallée de la Drôme, où il y a aussi beaucoup d'initiatives autour de ce sujet-là qui se développent, et bien c'est aussi un endroit où c'est intéressant d'en discuter parce qu'on a des acteurs qui sont directement en capacité de nous en parler et de nous dire bah, eux, comment est-ce qu'ils voient les choses, comment est-ce qu'ils les mettent en place, et voilà, quelles aussi questions ça peut poser en termes de bah, comment on fait concrètement en fait pour mettre en place ces pratiques.
C'est un film plutôt qui est positionné dans les films de solutions, qui amène les choses comme des solutions. Donc nous, on va se poser en fait les questions concrètes de qu'est-ce qu'on peut en attendre vraiment de ces solutions une fois qu'on est sur le terrain. Quelles difficultés on rencontre, quels freins, quelles limites, quelles conditions. C'est vraiment ça qui nous semble important pour avoir à la fois un discours positif, mais en même temps réaliste.
J'allais dire le film de Marc Kahn, du coup, qu'on n'a pas nommé. Et ces solutions, elles existent depuis combien de temps à peu près ? Depuis un petit moment, ou est-ce que c'est vraiment émergent ?
Alors, ce qui est assez fascinant avec cette histoire, c'est que c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire que on est dans un stade d'émergence sur l'aspect d'avoir des approches d'ensemble, en fait, qui mettent ensemble différentes pratiques qui existaient déjà par ailleurs, mais qui étaient en fait faites de manière isolée, et pas nécessairement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que là, notamment, ce qui motive beaucoup ces pratiques, c'est réduire les impacts du changement climatique, notamment par rapport à la question de la sécheresse, alors qu'auparavant, certaines de ces pratiques pouvaient être mises en place pour d'autres raisons, par exemple pour limiter l'érosion des sols. On a aussi un décalage de ce qu'on regarde et ce qu'on veut faire. Et puis vraiment cette approche un peu d'ensemble, d'avoir des pratiques qui réunissent du coup différentes manières d'agir. Donc c'est autour de ça que se retrouvent certains termes comme l'hydrologie régénérative, dont on parlera sûrement lors de la table ronde. D'une certaine manière, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont pas nouvelles. Mais par contre, la vision ou la volonté de le faire de manière cohérente, sur des échelles aussi géographiques, notamment en passant, peut-être que là on rentre un peu plus sur des termes techniques, mais en passant d'une logique de parcelle par exemple à une logique de bassin versant, donc vraiment essayer d'avoir un impact entier sur une échelle un peu plus large, ça c'est quelque chose qui est un peu plus récent.
Ça rejoint un peu le thème de la conférence justement, ces solutions fondées sur la nature du coup.
Oui, alors après le terme de solutions fondées sur la nature, il est aussi très coloré institutionnellement. Il n'est pas mobilisé par tous les acteurs nécessairement, mais effectivement ça rejoint ça. Ouais.
On peut peut-être en citer, donc tu as parlé d'hydrologie régénérative, On parlera aussi d'ouvrages mimétiques Castor, de trames vertes et bleues, de villes éponges. Ça, c'est peut-être un peu le petit nouveau dans la liste. C'est un concept d'urbanisme et d'hydrologie urbaine proposé par un architecte chinois dans une stratégie de résilience urbaine. Ça fait combien de temps qu'on parle de ce terme de résilience urbaine? Ça ne doit pas être très vieux.
En vrai, tous les termes que vous venez de citer sont assez récents.
Oui.
Même si, encore une fois, ils peuvent désigner des choses qui étaient plus anciennes. On va dire que le fait qu'ils soient utilisés de manière plus grand public, c'est très récent. En fait, on le voit apparaître dans des politiques, y compris locales, depuis seulement quelques années. Mmh. C'est le cas aussi d'hydrologie régénérative, hein, qui date de 2022, en réalité. Peut-être mobilisé un peu avant, mais il y a une association de ce nom-là qui se crée en 2022. On va discuter à cette table ronde d'un ensemble de pratiques que les personnes ne nomment pas de la même manière. Et ce qui est commun, par contre, et qu'on retrouve dans la définition de solutions fondées sur la nature, c'est l'idée vraiment de s'appuyer sur les processus naturels, d'essayer de les activer, réactiver, à des fins qui soient à la fois humaines, c'est-à-dire pour mieux vivre sur les territoires, pour pouvoir continuer à utiliser les choses, mais aussi dans une optique que les écosystèmes aillent mieux, avec cette idée que quand les écosystèmes vont mieux, les sociétés vont mieux aussi. Donc c'est ce qui est commun et qui peut peut-être s'entendre dans le terme « solutions fondées sur la nature ».
C'est l'état des lieux aujourd'hui. Qu'en est-il? Parce qu'on parle là justement des réactions, enfin de la résilience, mais on en est où en fait, concrètement?
Peut-être sur le territoire.
Sur le territoire de la vallée de la Drôme, pour être précis, peut-être, parce que j'imagine oui. Vos recherches vont peut-être un peu plus loin.
Alors ça dépend de quoi on parle, sur le on en est où, si on parle de là où on part ou de là où on veut aller, je pense qu'il y a un peu les deux.
Pour préciser peut-être les enjeux en tout cas.
Pourquoi on parle surtout d'enjeux quantitatifs par exemple?
Oui, ça c'est peut-être aussi effectivement comme je le disais tout à l'heure, le fait que certaines pratiques qui étaient auparavant vouées à certaines problématiques ont pu basculer, notamment sur l'enjeu quantitatif, donc l'enjeu sécheresse. Parce qu'effectivement, c'est le problème quand même là qui est vraiment prégnant dans la vallée de la Drôme, c'est l'enjeu quantitatif, la diminution de l'eau disponible et puis l'augmentation de la période de basse eau aussi, notamment pour la rivière, pour ce qui est visible. Et puis du coup aussi l'augmentation de besoins pour certaines pratiques. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a un intérêt vers ces tout cet ensemble là de propositions qui pourraient permettre de garder l'eau un peu plus sur le territoire en fait et de la ralentir.
En gros, ici sur ce territoire, il y a eu une prospective qui a été faite en vue de l'adaptation au changement climatique et qui fait donc des projections à 2030 et qui montre en gros qu'on va les pluviométries vont largement diminuer, surtout à certains moments, que le débit de la rivière va diminuer, mais dans le même temps, les besoins humains vont augmenter. Notamment et les besoins des écosystèmes aussi en réalité. Les plantes aussi ont besoin de boire. Et donc tout ça va créer un phénomène en fait, des taux. Donc en fait, on se dit, si on continue comme actuellement, ce n'est pas tenable. Donc du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on peut faire plusieurs choses. On peut réduire nos consommations en eau. On peut essayer de la stocker. On peut la partager autrement en décidant des usages qui sont prioritaires ou pas. Et puis il y a cette autre solution qu'on peut appeler de résilience. Voilà, autre solution fondée sur la nature, c'est de se dire, mais on peut quand même essayer de faire en sorte que nos écosystèmes aillent mieux pour continuer en mettant davantage d'eau dans les écosystèmes, pas forcément ni dans nos rivières, ni dans des ouvrages de stockage, pour améliorer la qualité de vie sur les territoires.
J'avais juste une dernière petite question, peut-être plus rebondir sur, vu que là, c'est un festival quand même international de films de rivière. Je ne sais pas si c'est la première édition à laquelle vous participez, j'imagine que non, enfin en tout cas peut-être Sabine, pas pour toi. Voir si ça vous... Enfin, je voulais savoir en tant que vous, chercheur, doctorant, ingénieur, scientifique, etc., en quoi l'imaginaire collectif, la culture, enfin l'aspect film, ça peut être un frein ou un outil? Parce que j'imagine qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Que ce soit documentaire ou fiction d'ailleurs, qu'on glisse oui, aussi vers ce festival en fait, parce qu'on n'est pas dans n'importe quel cadre aussi aujourd'hui.
C'est une très bonne question et je vais laisser la parole à Samuel, parce que c'est quand même le cœur de sa thèse. Okay. Mais effectivement, il y a une dimension qu'on n'a pas abordée ici et qui est abordée un peu dans le film et qu'on abordera notamment avec Pascal Lossel dans la table ronde, c'est la dimension culturelle en fait. Qu'est-ce que ces approches changent dans nos rapports à la nature, au vivant, et donc finalement derrière peut-être la manière dont on se comporte aussi avec elle. Donc il y a une dimension d'imaginaire qui est assez importante.
Ouais. Et effectivement, c'est un sujet moi, que je travaille du coup, dans le cadre de ma thèse. Là, cette articulation entre les imaginaires et leur matérialisation, on va dire, c'est aussi comment est-ce qu'on rend concret d'autres imaginaires. Et donc là, dans le cadre d'un festival de films, c'est aussi intéressant de voir parce que ça donne aussi la possibilité du coup de l'audiovisuel fait qu'on peut aussi montrer comment ça s'incarne. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des discours sur voilà, il faut faire autrement, il faut mettre l'eau dans les sols et pas. C'est quand même on a aussi l'opportunité de le voir. Et ça, c'est quand même aussi la force du coup de certains travaux audiovisuels, quoi, de pouvoir donner à voir soit de manière auditive, soit de manière visuelle, soit les deux en même temps. Et donc c'est aussi ce qui est intéressant, notamment dans le film qu'on va commenter tout à l'heure. Après, par contre, c'est aussi, on s'interroge plus sur les limites que ça peut avoir. C'est aussi, notamment sur l'aspect visuel, c'est de peut-être s'arrêter à ce qu'on peut vraiment voir. Et il y a des choses, en fait, qu'on peut pas forcément voir, mais qui sont peut-être moins spectaculaires ou qui ont des effets, mais que du coup, on peut pas en rendre compte comme ça. Il y a un point qui revient souvent quand on parle d'eau, c'est notamment la question des eaux souterraines, où tout ce qui se passe sous le sol, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à rendre, on peut pas en rendre compte visuellement, dans le cadre d'un film, ou en tout cas difficilement. Donc ça, c'est un point qui, je pense, est aussi intéressant de souligner. Voilà, ça nous permet de montrer des choses, notamment de montrer leur aspect concret. Et de montrer comment est-ce qu'on passe du discours à l'action, quoi, et comment est-ce que les deux vont ensemble. Je pense que c'est aussi ça qui est assez puissant. Mais en revanche, il y a aussi des angles morts quand même qui persistent.
Et d'ailleurs, pour un petit mot, il y a une autre page de pub pour le festival. Quand on passe pas par le film qui montre quand même des choses existantes, on peut aussi passer par le dessin ou par les montages sonores pour faire exprimer d'autres dimensions, peut-être moins visibles. Et il y a un dispositif qui sera présenté samedi, qui s'appelle Récit des eaux et des rives, qui est fondé justement sur la mise en. Enfin, sur des. C'est une carte dessinée du Diwa, donc d'une partie de ce territoire, autour des différents récits, savoirs, pratiques liés à l'eau, et notamment celles qui sont les moins visibles dans l'espace public ou politique.
Le pouvoir du son et le pouvoir de l'eau réunis.
L'INRAE, pour ce qui est de l'après-festival, on peut vous suivre, on peut suivre vos recherches, suivre vos actions. Pour le public qui sera du coup concerné et curieux après cette 7e édition, il y a de quoi suivre vos actions.
Alors, comme on travaille que ce soit l'Université de Lyon ou l'INRAE, dans des organismes publics, en fait, toutes les publications sont en libre accès sur un site qui s'appelle HAL. Alors, je dis pas que c'est facile à lire, mais enfin, c'est toutes les publications scientifiques. Et oui, sinon, l'INRAE est sur les réseaux sociaux, sur des sites internet. Et puis, on vous conseille d'aller voir ce récit des eaux et des rives auquel, en fait, qui est justement un projet, alors, pas de recherche-action, mais plutôt de recherche-création. Comment, du point de vue transdisciplinaire, on peut faire collaborer différentes disciplines et artistiques et scientifiques. C'est une autre manière de parler au grand public quand on est chercheur.
Efficace. Merci beaucoup.
Radio Micheline.
Mardi, c'est permis, spécial 7e édition du festival Les yeux dans l'eau. Je le rappelle, 7e édition du festival international du film de Rivière. Nous étions ainsi au campus à Heure le 24 avril dernier pour rencontrer les intervenants de cette table ronde proposée autour du thème suivant, solutions fondées sur la nature, état des lieux. Je vous rappelle que cette émission sera aussi diffusée chez les copains-copines de Radio Saint-Ferréol. Suite du programme avec Cédric Cadet de Valence. Ce roman aglo, mais pas que.
Alors, Cédric Cadet de Valence Aglo et surtout du service GEMAPI, chef de projet du service GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Et pour faire le lien avec les résiliences, la résilience de nos hydrosystèmes et mes missions, en fait, moi je travaille principalement sur le volet GEMA, de la compétence GEMAPI, c'est-à-dire gestion des milieux aquatiques. Et donc sur tout ce qui va concerner la restauration, la préservation, la régénération des milieux aquatiques, rivières, zones humides, hydrosystèmes, si on prend tout dans la globalité. Et forcé de constater que depuis quelques années, nos cours d'eau souffrent énormément, de la sécheresse notamment. Les étés sont de plus en plus critiques pour les cours d'eau. Et des réponses aussi aux orages qui sont de plus en plus rapides et violents. Même si on est dans un calme hydrologique et qu'on n'a pas connu de crue exceptionnelle depuis de nombreuses années, dès qu'il fait un orage très fort, les rivières répondent très fort aussi et très vite.
Alors, je fais juste un petit aparté micro. Je pense, si tu peux juste parler un peu plus dedans. Enfin, je sais pas, Jordi, ce que t'en penses, mais... C'est bon pour toi, là, pour Cédric?
Okay.
Et Damien, juste, il parlait trop... En fait, je pense qu'il y a... C'était juste parce que du coup, vu qu'on n'a pas les mêmes... Enfin, il fallait juste qu'on s'ajuste là-dessus, mais sinon, c'est très bien. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par dresser un petit état des lieux, des enjeux autour de l'eau sur le territoire, particulièrement Valence-Romont-Aglo, en tout cas celui qui nous intéresse, pour faire commencer un peu par le B.A.B.A. Pour nos auditeurs, auditrices qui nous écouteraient et qui seraient déjà un petit peu perdus sur, concrètement, dans le cadre du service dans lequel tu travailles, un peu voilà, dresser le contexte, la situation géographique et les enjeux actuels.
Alors, pour faire de manière très synthétique, le territoire de Valence-Romain-Aglo, donc du coup, il s'étend sur 54 communes, du nord, de la Drôme des Collines au nord jusqu'à la vallée de la Drôme au sud, à l'est, le contrefort du Vercors et à l'ouest, le Rhône. Ça fait un vaste territoire. Dans le cas de la compétence GEMAPI, on gère environ 600 km de cours d'eau et... alors, on ne gère pas, mais on dénombre près de 300 zones humides sur le territoire. Le contexte général, on a plutôt des cours d'eau qui vont être préservés, plutôt en bon état fonctionnel sur les têtes de bassin, en amont, dès qu'on rencontre un peu des reliefs. On a des pluies, et par contre, on a des cours d'eau très dégradés dès qu'on va arriver en zone de plaine. Des cours d'eau qui ont été marqués par les remembrements agricoles et par des gros travaux hydrauliques pour tenter de maîtriser et cadenasser les cours d'eau. Et entre deux, on a des cours d'eau altérés, qui n'ont pas subi des grosses perturbations, mais pour autant, leur fonctionnement est altéré, notamment par ce qu'on appelle l'incision, c'est-à-dire l'enfoncement des rivières dans la terre. Et c'est un gros, gros problème qu'on va retrouver un peu partout en France, des rivières qui s'enfoncent dans la terre et du coup qui drainent les territoires plutôt que de les hydrater.
Quand vous dites enfoncer dans la terre précisément,
c'est dans le sol, c'est des rivières qui plongent, en fait. Le fond de la rivière, on va le retrouver. Par exemple, nous, sur des cours d'eau, on a des rivières qui se sont abaissées de plus de 3 à 4 mètres. Et quand on regarde les photos anciennes aériennes, on s'aperçoit que c'est très récent, que rien qu'en 1965, c'était des cours d'eau qui n'étaient pas du tout dans cet état-là, qui avaient des lits mobiles, qui avaient des lits très larges, qui occupaient une bonne partie des fonds de vallon. Et aujourd'hui, ces cours d'eau, avec l'incision, se sont fixés, chenalisés, accélérés, simplifiés.
Alors, la thématique de cette édition du festival Les Yeux dans l'eau, c'est rivières vivantes, territoires résilients. Est-ce que tu, déjà, t'as envie de rebondir sur peut-être le terme de résilience ou même sur ce terme vivante, puisque là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi toutes ces approches low-tech et ces solutions inspirées de la nature dont on va parler. Est-ce que peut-être déjà sur le vocabulaire, il y a des choses qui t'inspirent dans cette thématique?
Alors, rivière vivante, ça m'inspire beaucoup. Dans le jargon des gestionnaires de cours d'eau, on parle souvent du bon état écologique des cours d'eau. Mais la rivière vivante, c'est encore un stade supérieur. C'est-à-dire on peut avoir une rivière en bon état écologique, mais on constatera qu'elle n'est pas totalement vivante et qu'elle est altérée. Donc la rivière vivante, retrouver des rivières vivantes, c'est être un peu plus ambitieux que retrouver le bon état écologique, qui se base sur la qualité d'eau et un état global du cours d'eau. Donc rivière vivante, oui, ça me parle beaucoup et c'est pourquoi on travaille aujourd'hui quand on lance des opérations d'aménagement low-tech. La résilience, ça me parle aussi, mais je préfère aujourd'hui parler de robustesse.
Robustesse?
Oui, retrouver des milieux robustes qui vont davantage résister à la confrontation des effets du réchauffement climatique. Un peu différent de la résilience. La résilience, c'est un milieu qui va être capable de retrouver un état après un traumatisme. La robustesse, c'est éviter et repousser le traumatisme au maximum. Mais les deux fonctionnent ensemble.
J'allais dire et répondre à un enjeu majeur, c'est peut-être, j'avais noté, la restauration du chemin de l'eau. J'ai l'impression que c'est une priorité sur le territoire et pas que chez nous d'ailleurs. Enfin, pas que...
Alors le chemin de l'eau, on va plus retravailler. Alors sur les chemins de l'eau, effectivement, et là c'est un peu le lien avec l'hydrologie régénérative, mais je laisserai les autres acteurs en parler. Mais nous, dans notre cas, sur le low-tech, c'est plus la place de l'eau que le chemin de l'eau qu'on va essayer de retrouver. Nos cours d'eau, on considère qu'ils ont perdu 90% de l'espace qui leur était dédié en très peu de temps, quoi. On a gagné, asséché les terrains, gagné sur les. Alors le cours d'eau et l'hydrosystème, c'est-à-dire tous les milieux humides qui vont fonctionner et entourer le cours d'eau. On a eu une érosion de l'espace cours d'eau et de l'hydrosystème qui a été extraordinaire ces dernières décennies, quoi.
Oui, qui est en cause aussi par rapport aux orages, cette érosion et ce manque de relief aussi peut-être, enfin de par rapport à, vous parlez des orages et justement de cet afflux d'eau, c'est à cause de ça aussi du coup.
Alors c'est un peu plus complexe. Oui. Les bassins versants en fait répondent très vite aux orages, comme on a drainé tous les milieux. Qu'ils soient forestiers, agricoles, urbains, c'est-à-dire on veut pas garder l'eau sur les territoires pendant des décennies. L'objectif, c'était d'évacuer l'eau le plus rapidement possible. C'est les drainages agricoles, mais ça existe en milieu forestier. C'est la pluie qui tombe aussi dans les zones urbaines. On les envoie tout de suite à l'égout et tout de suite. Et tout ça va très rapidement à la rivière. Les rivières, on a fait la même chose dans les années 1970-1980. On a aménagé les rivières, pas pour qu'elles gardent l'eau, pas pour qu'elles réhydratent les territoires, mais pour évacuer l'eau le plus rapidement possible au Rhône et à la mer. Donc aujourd'hui, c'est très problématique parce que dès qu'il pleut fort, tout arrive très vite, quoi. L'eau arrive très vite et très fort dans les cours d'eau. Et les cours d'eau, à un moment donné, traversent des zones habitées. Et c'est là que le problème va se poser, quoi. Si on fait le lien avec les orages et les inondations. Mais, je fais un petit aparté. Nous, nos projets de régénération low-tech, les enjeux étaient principalement biodiversité et lutter contre les sécheresses. Le volet inondation est intéressant. Et ça peut être des effets positifs si on arrive à le reproduire à long terme. Mais l'entrée principale, c'est retrouver des rivières vivantes et donc de la biodiversité et des rivières robustes, donc qui sèchent beaucoup moins vite, beaucoup moins fort en été, quoi.
Est-ce que du coup, on peut faire un petit, donner des exemples concrets d'actions menées par on dit le projet GEMAPI, enfin le c'est comme ça qu'on l'appelle, qui pourrait être visible du grand public, si ça existe déjà, ou est-ce qu'on est plutôt dans des projections long terme, sur des réflexions, ou est-ce qu'il y a un peu les deux?
Il y a un peu les deux, ouais. On a plein de projets dans les cartons, mais ça, des projets de restauration de cours d'eau aux zones humides, ça met un peu de temps à se mettre en œuvre. Oui, il y a plein d'exemples. On a nos gros projets, premier projet de restauration de cours d'eau date de 2013. Il y en a eu deux sur le Guimand, sur la commune de Montélégier, sur la commune de Montélier, sur le Pétauchin, sur la commune de Montélégier. Il y en a d'autres en cours, mais c'est très long, je vous dis, 2013, les premiers projets de restauration. Et de régénération low-tech, par contre, là, on en a des plus récents, des plus nombreux, des moins coûteux, avec des effets assez spectaculaires. Donc un, principalement, est le projet pilote en France le plus important, le plus étendu et le plus mature, qui est sur les rivières Véor et Lierne, sur les communes de Chabeuil, Château-Double. Donc là, les effets sont effectivement spectaculaires et toutes les personnes qui se rendent sur site repartent souvent assez émerveillées de ce site.
Avec le sourire.
Avec le sourire. Et pour les gestionnaires de cours d'eau qui viennent visiter ce site aussi avec plein d'étoiles dans les yeux et des perspectives sur leur territoire de projet.
Alors concrètement, les solutions low-tech, ça peut être quoi?
Alors les solutions low-tech, si je devais résumer en fait...
Ouais, c'est vaste.
C'est vaste, mais on s'inspire du vivant, de la nature. On reconsidère complètement la place et la fonction du bois en rivière. Pendant trop longtemps, trop d'années, on a systématiquement trop enlevé du bois en rivière, alors que c'est une composante essentielle pour le fonctionnement des rivières. Et on s'inspire aussi en partie de l'écologie du castor, puisque le castor, qui est un ingénieur infatigable, a depuis des millions d'années, jusqu'à sa disparition encore très récente, façonné des milieux rivières riches, robustes, résilients. Et donc on tente de limiter. Et donc ces solutions low-tech, elles sont pas que low-tech, elles sont low carbone, l'eau-ingénierie. On n'a pas besoin de passer par des bureaux d'études avec des modélisations. Il suffit de bien connaître sa rivière pour pouvoir lancer des projets de ce type.
Jordi, on a encore un peu de temps ou... Ouais, ok. J'avais une dernière... Justement, je voulais rebondir sur si on appelle, tu m'arrêtes si je me trompe, barrage mimétique castor, c'est comme ça qu'on les appelle.
Alors nous, on parle d'ouvrage mimétique castor parce que le mot barrage peut poser problème et ce n'est pas un barrage, c'est un ralentisseur.
Eh bien, justement, je voulais voir si j'avais bien compris. J'ai essayé de faire quelques petites recherches et j'ai lu ça, c'est que contrairement à ce que l'homme ferait intuitivement, à savoir positionner perpendiculairement les
bois,
éléments,
les branches.
Voilà, au cours d'eau. Là, l'idée, c'est de le faire en parallèle, c'est ça ? Et ça change tout ?
Ça change tout, puisque du coup, on barre pas l'eau, on la ralentit. Donc, en mettant les branches, alors qu'ils sont, il y a une technique de construction pour que ça soit plus ou moins solide, puisque c'est des ouvrages qui sont importants, qui sont pas pérennes, qui sont pas amenés à durer dans le temps. C'est des ouvrages qui vont réactiver des forces. Ce qui est important dans cette approche-là, c'est qu'on accompagne la rivière, on aide la rivière à retrouver ses propres forces pour pouvoir se guérir et guérir de cette incision. Et du coup, pour revenir sur la technique de l'ouvrage mimétique castor, effectivement, les branches sont plutôt positionnées dans le sens du courant. Les feuilles vers l'amont, c'est-à-dire qu'elles vont, quand l'eau va arriver, elles vont s'ouvrir et s'opposer et ralentir les écoulements. Et c'est en ça que ça va permettre justement de rehausser les niveaux d'eau, de ralentir. C'est une grosse... Le mot ralentissement, il est important aussi dans cette approche low-tech, puisque jusqu'à présent, on a toujours essayé d'accélérer. Et là, on ralentit. Je me suis un peu perdu.
Non, mais c'était très clair.
C'était parfait.
L'idée, c'est d'augmenter la rétention d'eau et de ralentir l'érosion, c'est ça ?
Alors, c'est pas d'augmenter. Alors, d'augmenter la rétention d'eau, c'est pas forcément le bon terme. En tout cas, c'est la ralentir, effectivement. Elle est toujours accélérée. C'est vraiment de complexifier les conditions d'écoulement et pas avoir un seul écoulement rapide accéléré vers l'aval. C'est de réhydrater, en fait, toutes les marges et les terrasses alluviales qui entourent le cours d'eau. C'est ralentir, l'infiltrer, garder l'eau sur le territoire, finalement, garder l'eau dans l'hydrosystème.
C'est très clair. Merci.
C'est un bon programme.
Oui,
super programme. Vous avez déjà des résultats, j'imagine ?
Alors, des résultats, on a plein de suivis en cours. On a des résultats visuels. Alors, nous qui sommes toujours dans la rivière, on constate effectivement une explosion de la biodiversité, surtout semi-aquatique ou amphibie, c'est-à-dire les amphibiens, les odonates. Dans la rivière aussi, cette année, on a constaté énormément d'alevins. Donc, on sait qu'il y a énormément de reproduction sur ces sites-là. Mais ce qui est surtout émerveillant, c'est qu'on a de l'eau partout. On a de l'eau, la rivière qui occupait un lit de 4 mètres de large. Parfois, aujourd'hui, on a de l'eau sur plus de 50 mètres de large. Et on a rouvert des bras secondaires. On a remis des mares qui étaient asséchées en eau. Et donc, voilà. On n'a pas les résultats scientifiques papier, mais c'est tout en train de se mettre en œuvre. Et d'ici l'automne, on devrait avoir les résultats concrets, les résultats d'inventaire notamment.
Merci beaucoup. Rivière vivante, territoire résilient, la suite de notre émission avec justement les solutions et les actions proposées, suggérées, et cette fois-ci en concret avec autour de la table mon cher Pedro, bonjour.
Salut, salut.
Et Pascal Lossel qui, dans quelques minutes on peut dire, fera partie de cette fameuse table ronde qu'on a présentée, et tu vas nous parler de Dryade. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Déjà comment ça va ?
Ça va bien. Il fait beau.
Oui, il fait beau et tu arrives tout droit d'une forêt.
Tout à fait. J'arrive du rocher de Sulpierre au-dessus de la vallée de la Scie.
D'accord. Et qu'est-ce que tu y faisais à tout hasard ?
J'inspectais pour trouver un lieu pour passer une nuit avec des gens.
Ok. Alors, ton délire, c'est d'aller en forêt, si je comprends bien.
C'est ça.
C'est ça ?
Ouais. Et dans la rivière aussi.
Et dans la rivière.
En forêt, c'est quand même ma base, la forêt, clairement.
J'allais dire, si t'apportes pas plus d'infos, ça va devenir chelou.
Mais on va reprendre un petit peu le béaba. Pascal Lossel, tu habites dans la Drôme et tu es ingénieur économiste technicienne forestière. Et la première question qui me vient en tête, qu'avoir la forêt avec les rivières dont on parle aujourd'hui ?
Une bonne question.
Et c'est une colle. Passons à la deuxième question.
À la base, à vrai dire, je m'intéressais qu'à la forêt. Ouais. Et de la forêt, j'ai découvert le pistage animalier.
Ok.
Et du pistage animalier, j'ai découvert le castor. Et là, je suis sorti de la forêt puisque les animaux n'ont pas de frontières.
Et non.
Et la rivière, magnifique. Donc, voilà. Et finalement, à bien réfléchir aujourd'hui, le lien forêt-rivière, en fait, a toujours été présent. C'est depuis quoi ? Quelques centaines d'années que c'est déconnecté.
Ça fait, donc, c'est l'équilibre de la nature.
Donc finalement, les animaux, ils font juste ce qui a toujours été. Ils traversent les milieux et moi, je reviens à la source.
Et donc, alors, quel est le rôle finalement de ce fameux castor, entre autres, dans cette, dans ta structure Dryade 26, dont tu es la fondatrice depuis 2011?
Alors, c'est Dryade, c'est pas Dryade 26, mais.
Oh, pardon.
Pas de souci.
Ok.
C'est le site internet qui est Dryade 26, puisque Dryade était pris.
Autant pour moi, une question de nom de domaine. Alors, Dryade, dont tu es la fondatrice depuis 2011, le castor, a toute sa place là-dedans, ou quel est son rôle? Pourquoi cet animal-là? Dis-moi-en un petit peu plus, justement, par rapport à ce lien avec la rivière.
Bah, le castor, en fait, donc, ce que je disais, il est venu par, par le pistage animalier. Par notre intérêt à la base autour de la forêt et des animaux, comprendre qui est là pour comprendre ce qui se passe dans cet espace. Et il y a des espaces de pistage animalier en bord de rivière, dans nos vallées qui sont magnifiques, un petit limon fin qui marque toutes les traces, c'est très très beau. Et donc le roubion, on a trouvé on appelle ça le tracker paradise, le paradis des trackers, avec des empreintes magnifiques, et une famille castor. Et pour une forestière, c'est passionnant d'étudier ce que fait le castor, de voir comment il entretient les rives, même si c'est pas son objectif. De fait, il les façonne. Et de voir les barrages, puisqu'on construit aussi des ouvrages en forêt, enfin avec du bois, pour faire des aménagements, pour pouvoir passer du temps en forêt. Et de voir son travail à lui, c'est assez incroyable, le bâtisseur. Donc on a commencé à le suivre. Ça fait des années maintenant qu'on suit ses familles. Et fasciné par le travail. Et puis ensuite, on a découvert ce qui se faisait en Californie, enfin aux États-Unis à l'ouest. Et là, tout de suite, moi, je suis allé suivre la formation avec Kevin Swift, donc un des Américains, un des principaux acteurs de la régénération des rivières, low-tech, là-bas. Mmh. Et ça m'a fasciné. Donc je suis parti deux mois aux États-Unis travailler dans son équipe pour vraiment apprendre, sentir dans mon corps... ça, et puis voir les ouvrages sur lesquels il travaille depuis des années, et c'est assez fascinant. Et puis suivre des familles de castors là-bas aussi. Mmh. Ils font des ouvrages gigantesques là-bas, c'est magnifique.
Et donc, est-ce que toi, à ton échelle, avec Dryade, vous prenez avec un petit groupe de personnes qui vient et qui fait appel à toi, vous prenez pour des petits castors ici et là dans nos régions et bien au-delà, pour justement mettre en application tous ces savoirs que tu as appris grâce justement à Kevin Swift, tu le disais, dans ce process low-tech. Concrètement, en fait, est-ce que c'est facile de transmettre ça, d'être dans la transmission et finalement peut-être aussi d'éduquer les futures générations à les sensibiliser sur cette question-là entre l'humain et la nature?
Alors, le transmettre, c'est relativement simple, puisqu'il y a quelque chose d'assez instinctif, même si tout n'est pas si évident que ça, il y a quand même de la subtilité. Et puis les gens sont assez preneurs dans la rivière et de mettre jouer avec des bâtons et de la boue, ça fonctionne bien, il n'y a pas trop de freins à cet endroit-là. La plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des espaces et d'avoir les autorisations pour le faire. C'est là où ça coince et où finalement aujourd'hui Dryade n'a pas fait énormément de chantiers en France. On a fait beaucoup en Californie et en Oregon. En France, encore peu pour ces problématiques d'autorisation et aussi de visibilité auprès des acteurs du milieu rivière, qui est un milieu avec toutes les caractéristiques des milieux techniciens.
Et... Vas-y. Alors, question aussi, dans quelle mesure et comment toi t'essayes finalement d'agir au quotidien vis-à-vis du lien intrinsèque qu'il y a entre les rivières et la forêt, qu'on pourrait prendre comme deux écosystèmes à part entière, et pourtant, non.
Comment j'agis sur ce lien? C'est ta question.
Ou comment la gestion finalement de ces espaces forestiers vont avoir une influence durable sur les dynamiques plutôt aquatiques ou l'inverse, comment gérer une rivière pour avoir une influence positive aussi sur les forêts?
La rivière et la forêt se tiennent, hein. Ils sont ils sont intrinsèquement liés. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'espaces où il y a la rivière d'un côté avec très peu d'arbres, comme la petite vallée de la Scie dans laquelle j'habite, où il y a 2 mètres d'arbres de chaque côté du lit. Et puis, il y a des rivières qui n'ont pas de. Des forêts, pardon, qui, dans lesquelles il y a assez peu de rivières. Et moi, chez moi, par exemple, dans cette petite vallée de la Scie, j'ai la chance d'être propriétaire d'un terrain donc, sur lequel je suis en train de laisser la forêt revenir pour que ça crée un corridor où les animaux vont pouvoir circuler et puis les arbres vont pouvoir faire leur micro-cycle de l'eau. Et après, avec les gens, on accompagne des enfants, des familles, des adultes sur la connexion nature. C'est notre activité principale aujourd'hui. On apprend à observer, à lire le milieu, à fabriquer, à reprendre les savoir-faire qui ont toujours été en fait la base de l'humanité pendant des millénaires et des millénaires. Et le lien arbre, eau, forêt, de fait, il est assez évident. Donc, par finalement des pratiques assez simples de reliance avec le milieu, le pont se fait. Après, l'idéal pour moi, serait vraiment de pouvoir travailler sur des rivières, parce que ces chantiers castor mimétique ou en bac mimétique, finalement, c'est juste réintroduire l'humain, en fait, pour réparer un petit peu ce qu'on a fait et après relaisser la place au milieu de se réparer. Parce que finalement, c'est nos interventions de nettoyage, de la même manière qu'on nettoie les rivières, on nettoie les forêts. Et donc, on enclenche des cercles vicieux.
Oui. Mais du coup, il y a tout de même une action qui est nécessaire de notre part pour un petit peu rétablir ces cours d'eau et ces forêts. Ou est-ce qu'en ne faisant rien, finalement, la nature va reprendre son droit chemin, en quelque sorte?
Alors, sur les forêts, si on fait rien, tout va bien. Dans le temps, ça va se remettre, ça va se rediversifier, probablement. Par contre, on a besoin de bois. Donc, faut être réaliste avec ça. On est des animaux comme les autres, on répond à nos besoins, c'est pas tellement un problème. Donc il faut bien qu'on apprenne à le faire différemment. Et donc, voilà, le changement. Après, sur les rivières, c'est un peu différent parce qu'on les a tellement modifiées que ça va être difficile pour la plupart, ou alors sur un temps vraiment très très long, de réenclencher une dynamique positive. Donc là, il faut qu'on agisse un minimum pour leur laisser de la place, idéalement pour... Pas sur tout, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Je pense que le problème pendant des dizaines d'années, c'est la simplification de vouloir donner une solution pour tout. Mais pour les rivières, il y a certains endroits où on peut agir pour des petites actions régulières pour réenclencher des processus qui après se referont. Puisque si on laisse de l'espace et des arbres à la rivière, elle se débrouillera très bien toute seule.
Est-ce qu'il y a un souci avec le castor de refaire ses barrages? J'allais dire plus précisément, est-ce que des barrages castor humains pourraient ralentir le retour de cet animal en rivière?
Pas. Vous faites de la concurrence au castor, c'est ce qu'il est en train de demander.
Je pense pas que les castors puissent être très gênés par les ouvrages qu'on fait. Je sais qu'aux États-Unis, on intervient régulièrement des endroits où les castors sont présents, où ils agissent. Soit pour démultiplier les ouvrages, soit pour renforcer leurs ouvrages là où les courants sont trop forts, on va les renforcer en mettant des piquets. Des fois, ils reviennent sur des endroits où on a travaillé pour rehausser les ouvrages parce qu'ils trouvent que c'est pas assez haut.
Ouais.
Là où en France, à plus de 50 cm, tout le monde dit « Ah, c'est trop haut, attention, les poissons et tout ça ». Là-bas, c'est pas du tout un problème et les travaux là-bas, ils sont financés par les gestionnaires de la vie sauvage et des poissons. C'est financé par les pêcheurs, parce que les pêcheurs là-bas ont très bien compris qu'ils ont tout intérêt à avoir des ouvrages de ce type.
D'accord.
Donc il y a une vraie collab entre le castor et l'humain?
Potentiellement, complètement.
Il faut l'entretenir, ce lien en tout cas. Tout du moins, il faut continuer de s'inspirer des animaux qui nous entourent et continuer de s'inspirer dans les solutions que la nature même nous apporte finalement.
Ben, complètement. Et il faut s'inspirer d'eux, le castor et tous les autres, hein, parce que y a beaucoup, tous les animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et je pense que c'est bien d'ouvrir le regard et pas de focaliser uniquement sur une espèce. Sur les ouvrages castor faits par les humains, il y a quand même, effectivement, c'est accessible à tous, mais il y a des subtilités, c'est pas si simple que ça, et on peut aussi faire des erreurs. Donc, faut faire attention. Pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre du professionnalisme par rapport à la taille des cours d'eau, et une vigilance, une attention à avoir. Moi, je suis allé 4 mois là-bas, enfin aux États-Unis, pour me former parce que ça me paraissait important d'avoir vraiment une vraie assise pour pouvoir transmettre. Aujourd'hui, je voudrais vraiment développer du chantier au kilomètre en France pour avoir une expertise dans ce milieu. Mais je suis un bébé et les gens avec qui je travaille là-bas, ils ont 5-6 ans d'expérience et ils prétendent pas être des maîtres, voilà, tout savoir et il y a plein de précautions à prendre. C'est pas si simple que ça. Et voilà, je pense qu'il faut. On peut jouer sur des tout petits cours d'eau, mais il faut peut-être pas jouer partout.
Et ça a été souligné plusieurs fois lors des interviews précédentes, c'est aussi dans une phase d'observation, enfin ces solutions low-tech, comme on les nomme, ont encore quelques étapes devant elles. Pour la Dryade, c'est pareil, j'imagine, de développement et de développement tout court.
De chiffres, de données quantifiables pour réussir à voir qu'on est effectivement sur le bon chemin, même si c'est d'une évidence absolue, mais les chiffres ont tendance à mieux parler au plus grand nombre.
Oui, tout à fait. Et puis les administrations, les gens qui sont chargés de veiller sur la rivière sont prudents et ils sont là pour prendre soin du milieu. Donc là, c'est une prudence qui est dans le registre de ce pourquoi ils sont là. Et j'espère que les chiffres vont aller dans le bon sens. Il faut aussi faire confiance à donner la chance à pouvoir vraiment expérimenter pour pouvoir vraiment montrer la puissance de ces méthodes. Et finalement, il y a quelque chose que dit Kevin que j'aime bien, c'est que finalement, on risque beaucoup plus à ne rien faire qu'à faire quelque chose.
Sage parole de Castor, sans doute. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble des activités que vous faites avec Dryade?
Et bien sûr le site Dryade avec un Y26.org, il y a à peu près toutes nos propositions.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Rivière vivante, territoire résilient aussi avec Samuel Bonvoisin. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Tu viens nous présenter l'association pour une hydrologie régénérative, un terme qui a été souvent nommé lors de cette émission, qui s'apparente comme l'une des solutions, l'une des propositions low-tech, c'est ça ?
Oui, alors en fait le terme hydrologie régénérative, c'est une invention en quelque sorte, hein, c'est une proposition qui est à l'origine émané de mon collègue Simon Ricard de Permalab. En fait, on était un peu orphelin d'un terme en français pour parler de cette approche de régénération des cycles de l'eau. Voilà, basé sur l'aménagement du territoire et des paysages. Il y avait des termes qui arrivaient, des termes anglo-saxons comme le keyline design ou bien des approches donc qu'on appelle aujourd'hui solutions fondées sur la nature qui nous convenaient pas pour différentes raisons. Notamment solutions fondées sur la nature, pour nous ça ne permet pas de prendre en compte la dimension de conception et de réflexion qui est adaptée à chaque contexte, et ça donnait l'impression que en fait on vient apposer des sortes de petits patchs avec des choses un peu toutes faites, ce qui est pas du tout l'approche de l'hydrologie régénérative, qui est plutôt de notre point de vue une science, alors une science naissante, hein, clairement, mais une science de la régénération des cycles de l'eau. Et donc si on devait définir ce qu'est l'hydrologie régénérative, on dirait qu'aujourd'hui on est dans un contexte de dégradation des cycles de l'eau. On a franchi en 2022 et 2023 la 6e limite planétaire, qui est la limite des cycles de l'eau douce, et donc on a besoin de se pencher sérieusement sur la question de est-ce qu'on peut régénérer ces cycles de l'eau, et donc c'est le propos de l'hydrologie régénérative.
Alors est-ce qu'on peut du coup ?
Alors, c'est une très bonne question parce que on part pas de zéro du tout. L'hydrologie régénérative est un terme qui n'est pas l'acte de naissance en fait de cette pratique. On vient plutôt essayer de la réunir sous une terminologie, mais en fait on a des pratiques que nous on appelle donc régénératives qui datent depuis très longtemps en fait, même depuis le Moyen-Âge, l'Antiquité, il y avait des pratiques qu'aujourd'hui on peut qualifier d'hydrologie régénérative. Donc en fait on vient faire une synthèse entre des choses qui sont tout à fait des pratiques vernaculaires, ancestrales. Dans beaucoup de régions, on avait cette intuition et on avait observé aussi sur le terrain qu'en ralentissant les cycles de l'eau, en facilitant l'infiltration. Donc l'hydrologie régénérative repose sur 5 principes: ralentir, infiltrer, stocker dans les paysages évapotranspirer et diversifier. Et en fait, on voit qu'il y a des pratiques qui datent d'il y a très longtemps, qui font déjà ça. Et puis, il y a aussi des choses nouvelles. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est qu'on fait une synthèse, en fait, entre des approches historiques et aussi des choses complètement nouvelles qui sont nées parfois dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, et qu'on a essayé d'adapter au contexte français.
Et concrètement, alors, en France, comment vous mettez en application toutes ces méthodes, qu'elles soient ancestrales ou plus récentes ?
Alors, la première chose, c'est que, en fait, on ne cherche pas à transposer ou à répliquer à l'identique des choses qui se font ailleurs. On part toujours de l'observation du terrain.
Oui, c'est du cas par cas, au final.
C'est du cas par cas, voilà. Mm-hmm. On utilise des principes communs, mais ensuite, les formes vont être différentes selon les territoires, selon la typologie des bassins versants. Alors, une chose qui est très importante à préciser tout de suite, c'est que l'hydrologie régénérative, ça n'a pas de sens réellement à l'échelle d'une parcelle ou d'un terrain ou d'un jardin, par exemple.
Ça, plutôt l'échelle est plus grande, voilà, c'est d'une ça. Vallée, voilà. Voire même d'une région, carrément.
Voilà, l'analogie, c'est l'analogie du tri sélectif. Hein, si vous êtes la seule personne à trier vos déchets dans votre ville ou dans votre région, bah c'est super, tant mieux, bravo. Mais par contre, l'impact, il est ridicule. Hein, ça sert à rien de le faire. C'est un peu la même chose avec l'hydrologie régénérative. Si un agriculteur, par exemple, dans un bassin versant, ou un propriétaire forestier ou un jardinier met en place des pratiques pour ralentir les cycles de l'eau, favoriser l'évapotranspiration, c'est super. Mais si tous les voisins vont dans le sens inverse et accélèrent le cycle de l'eau, installent, comme c'est le cas aujourd'hui beaucoup...
C'est se mettre des bâtons dans les roues, là.
Voilà. Mais c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Donc, on est dans un contexte où culturellement, ce qui a dominé ces 50 dernières années, c'est le paradigme de l'accélération, ce qu'on a appelé la politique du tout tuyau hein, dans les années 80. Mm-hmm. Dès qu'il y avait un problème d'eau, une route, un champ, n'importe quoi, hop, on met des tuyaux, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie grise. Et donc, nous, on arrive avec une approche qui serait plutôt dans le courant de l'ingénierie verte, où on essaie de ramener des sols, de la matière organique, des arbres, pour essayer de régénérer les cycles de l'eau. Et donc, du coup, ça n'a de sens, ça ne peut fonctionner que si on le fait à l'échelle des bassins versants, et donc si on a une approche concertée entre les différents acteurs et qu'on décide de le faire ensemble.
C'est ce qu'on pourrait appeler la rivière vivante, du coup, à rechercher à ce qu'elle redevienne vivante.
Alors oui, alors cette analogie avec le vivant, elle est vraiment importante. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on pense à la santé d'un écosystème, on pense à la santé tout court. En fait, on imagine, ça peut être une représentation qu'on a, que la santé, c'est une sorte d'état initial. C'est-à-dire, il y aurait une sorte de monde comme ça dans lequel on aurait la santé déjà de base, et qu'ensuite cette santé, elle serait potentiellement dégradée par des pollutions, par des dégradations diverses et variées.
Mais on se trompe
effectivement. La santé, ça n'est pas un état initial. La santé, c'est le résultat d'une action. Donc typiquement, la santé des rivières, c'est pas simplement la rivière qui coule comme ça et qui est en bonne santé. Non, c'est l'action concertée du castor, des arbres, etc., qui va créer ces rivières en tresse, qui vont recharger les nappes, qui vont favoriser la ripisylve, donc cette forêt le long du cours d'eau, etc. Tout comme la santé d'un sol, c'est le résultat de l'action des vers de terre. Et en fait, on n'a pas un sol déjà de base en bonne santé. On a un sol parce qu'on a de la vie dans les sols qui font des sols en bonne santé. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que, en fait, le problème n'est pas tant de réparer ce qui a été cassé, mais de relancer des processus qui permettent la santé des hydrosystèmes. Et c'est ce qu'on fait avec l'hydrologie régénérative, en essayant de mimer ce que fait le vivant depuis des millions d'années, en ralentissant les flux d'eau dans les cours d'eau.
Et la nature déjà le fait très très bien de base, sauf que voilà, c'est à nous de rattraper nos bêtises un petit peu en quelque sorte maintenant.
Ouais, alors la nature le fait bien de base, c'est en tout cas
sur un long terme.
Ce qui est intéressant, c'est que nous, on en a peu de connaissances, d'abord parce qu'en fait on en a peu le vécu et l'observation aujourd'hui. Typiquement en Europe, le castor a disparu depuis 200 ans, il n'y a plus de forêt primaire depuis peut-être le Moyen-Âge, donc en fait on a du mal à se représenter qu'est-ce que ça serait une Europe occidentale en bonne santé, en quelque sorte, hein, des écosystèmes en bonne santé, et on est victime de ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. L'amnésie environnementale, c'est ce phénomène qui fait que chaque génération génération qui naît bah, découvre des paysages qui deviennent une norme hein, en quelque sorte. Moi par exemple j'ai grandi dans un paysage dans lequel les arbres avaient presque disparu dans la campagne dans laquelle j'ai grandi et donc moi j'ai pas ce souvenir de ce qui était avant, et si je dialogue pas avec mon grand-père ou mon arrière-grand-père de ce qui, de comment les paysages ont évolué, bah, en fait j'ai oublié en quelque sorte ce qui s'est passé, et donc du coup ça ne me manque pas, et donc finalement ça me gêne pas et je n'ai pas envie de me mobiliser pour retrouver les paysages.
Ça devient ta normalité en fait, et donc du coup tu n'agis plus.
Exactement, et donc une partie du défi de l'hydrologie régénérative comme de d'autres disciplines en lien avec la question écologique, eh ben, c'est d'essayer justement de recréer ces liens, ces connexions perdues avec des paysages en bonne santé, pour essayer justement de retrouver un univers mental qui soit favorable et qui nous donne envie de nous mobiliser au service de ça.
Ça fait partie des actions de ton association du coup?
Alors l'association pour une hydrologie régénérative, elle est née consécutivement à la sécheresse qui a frappé notre pays en 2022. Ça a choqué pas mal de monde en France. Et elle est née au départ avec l'idée de rassembler les personnes en France qui s'intéressent à l'hydrologie régénérative. Et puis en fait assez vite, pendant la première année de la vie de l'association, on s'est rendu compte que finalement notre objet, il va un peu plus loin que rassembler les gens et faire se retrouver. Notre objet, il est de faire émerger des dynamiques territoriales, parce qu'en fait on a une crainte en quelque sorte, c'est que l'hydrologie régénérative se diffuse de proche en proche auprès des personnes qui sont motivées, qui vont faire ça individuellement chez elles, dans différents endroits, mais que ça fasse pas système. Et donc en fait aujourd'hui l'association, son objectif principal, c'est d'engager les territoires, d'engager les collectivités territoriales, donc ce sont des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des départements, des syndicats de bassins versants, des parcs naturels régionaux, pour qu'elles mettent en place l'hydrologie régénérative dans leur politique et que du coup ça devienne une forme de normalité et qui s'impose, en tout cas qui soit proposée à tout le monde en même temps, voilà, et que tout le monde s'engage en même temps dans cette direction-là, et que ça transforme nos métiers, parce qu'en fait ça transforme beaucoup de métiers, on se rend pas forcément compte de ça, mais beaucoup de nos métiers d'aujourd'hui sont des métiers où ben, quand on a un problème d'eau, on va gérer, mettre des tuyaux, évacuer, etc. Et donc ça transforme les urbanistes, les architectes, tous les gens qui sont dans la conception, les paysagistes, tous les gens qui sont dans l'action, qui travaillent dans le BTP, qui travaillent dans l'aménagement des routes, des voiries, etc. Tout, l'agriculture, les agriculteurs, tous les gens qui travaillent dans la gestion forestière, les gens quand on travaille dans l'aménagement des cours d'eau, dans l'entretien des cours d'eau. Donc toutes ces personnes-là, elles doivent apprendre des nouveaux métiers. Je vais prendre un tout petit exemple. Moi, en tant qu'agronome, à l'école, j'ai appris qu'il fallait limiter l'évapotranspiration, c'est-à-dire le fait que les végétaux transpirent, parce que j'ai appris ça, on m'a dit que c'est une perte d'eau dans le système de la ferme. L'agriculteur, il perd de l'eau quand il y a de l'évapotranspiration, donc il faut le limiter. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. L'hydrologie régénérative nous apprend qu'au contraire, il faut encourager l'évapotranspiration, il faut en faire le maximum pour renvoyer de l'humidité et faire circuler ce qu'on appelle les cycles de l'eau verte. Tous les agronomes qui ont été formés jusqu'à aujourd'hui, en fait, il faut qu'ils désapprennent ce qu'on leur a enseigné et qu'ils aient des nouveaux outils pour pouvoir aménager les fermes et éviter de nous conduire vers le désert, parce que c'est ce qui va se passer si on ne fait plus d'évapotranspiration.
Il y a du taf, mais il y a de l'espoir.
Exactement. Une fois qu'on a compris et qu'on a posé les données des problèmes, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions ou d'aller vers les bonnes manières de faire. Le premier travail, c'est un travail d'éducation, de sensibilisation. Il faut se former. Les cycles de l'eau, on a un peu tous l'impression qu'on connaît ça par cœur, parce qu'on l'a vu en CE1, CE2. On a vu ce schéma avec ce nuage.
La rivière, la mer, les nuages, etc. Ouais, ouais.
Et en fait, il est pas faux, mais il est trop imprécis, ouais. Trop simpliste. Il faut le densifier. Il faut qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne, et notamment le rôle et la place de nos paysages pour pouvoir aménager les paysages qui vont régénérer les cycles de l'eau.
Prendre conscience aussi de son territoire. Et d'où le dialogue est hyper important, notamment grâce à cette table ronde dont tu fais partie. C'est, comme tu le disais, c'est de concert avec tout le monde. Ça, c'est aussi la priorité.
Tout à fait. Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ne commencent à se soucier de ces questions que quand elles sont frappées par des inondations, par des sécheresses. Et donc, il y a un gros travail à faire pour faire cette transmission en dehors d'un contexte émotionnel trop tendu. Et donc, moi, je me réjouis de pouvoir m'exprimer tout à l'heure pendant la table ronde, parce que c'est vraiment des espaces dans lesquels on peut se parler de ces choses-là sans que tout le monde... Et le sentiment que finalement on en a parlé trop tard et qu'il faut que tout le monde ait des drames ou des destructions d'habitations ou autres pour qu'on commence à en parler.
Pour en savoir beaucoup plus sur cette association, j'imagine on te retrouve au-delà de la table ronde sur Internet.
Tout à fait, hydrologie-régénérative.fr. Si ça vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'association. Vous pouvez même rejoindre le Discord, même sans adhérer. Le Discord qui est notre espace de discussion. Vous pourrez choisir le bassin versant dans lequel vous êtes et dialoguer avec des gens qui sont sur votre bassin versant et qui veulent s'engager pour l'hydrologie régénérative.
Eh bien, merci beaucoup Samuel.
Merci à vous.
M comme Micheline.
Mardi, c'est permis spécial. Les yeux dans l'eau touche à sa fin. On remercie tous les participants, mais aussi Radio Saint-Ferréol qui retransmettra cette émission aussi. Rivière vivante, territoire, résilience, ça continue sur le www.festival-lesyeuxdansl'eau.fr.